Merci. Je vais être incapable de faire la même liste de remerciements que tu as fait, Delphine. Donc, merci à vous d'être venu et merci à Delphine de m'avoir invité. Et puis, au site Culture Sciences Physiques, que moi, j'utilise moi-même et que je suis depuis des années. Et bravo pour tout le travail que vous faites. Donc Delphine m'a demandé de venir vous parler aujourd'hui d'enseignement. Alors moi, habituellement, ces dernières fois, quand j'interviens pour le grand public, c'est plutôt sur les ordinateurs quantiques, sur les technologies quantiques, et où je fais plutôt de la vulgarisation en conférence. Et donc, je n'ai pas forcément l'habitude de raconter ce qu'on fait du côté de l'enseignement, mais il se trouve que c'est une grande part de mon activité. Et donc, je suis ravi de le faire avec vous aujourd'hui, mais il faut être très indulgent. Alors, le truc le plus important dans le titre, c'est le point d'interrogation à la fin. Donc je ne suis pas là pour vous donner des leçons sur comment il faut enseigner la physique ou quelles sont les bonnes méthodes d'innovation pédagogique sur la physique. Nous, ce qu'on fait dans notre équipe, et vous allez le voir tout au long de l'exposé, c'est tester des petites choses. Et parfois ça foire pas. Et puis quand je dis que ça réussit, c'est juste moi qui ai un feeling. Parfois on essaye de l'évaluer. Mais il n'y a rien de très à l'échelle, très scientifique, très massif. Donc voyez ça plutôt comme plein de petites explorations de plein de choses qu'on a pu tester nous-mêmes et voir si ça marchait ou pas. Et puis, je vous mets aussi en garde que plein des choses que je vais vous montrer ont dû être faites bien mieux à plein d'autres endroits dans le monde. Et peut-être que je les ai ratées ou peut-être que je les connais. Et donc voilà, moi, je vous raconte juste l'expérience de notre équipe, mais ça ne se veut pas du tout encyclopédique. Voilà, c'était mes mises en garde. Donc juste deux mots sur l'équipe, parce que c'est important pour vous expliquer un peu la démarche dans laquelle on inscrit ça. On a appelé ça la physique autrement. Elle a 10 ans, nous, elle n'a pas 20 ans. Et elle a 10 ans à peu près ces jours-ci, cette équipe. On ne fait pas du tout de physique autrement dans cette équipe. L'idée, c'est de trouver des façons de l'enseigner ou de la vulgariser autrement. C'est vraiment ça notre credo. Et on va chercher, en fait, de façon un peu systématique et un peu parallèle, à la fois du côté de la vulgarisation et de l'enseignement. Parce que nous, on trouve plein de passerelles entre ces deux univers qui sont pourtant très distincts. On ne fait pas la même chose quand on enseigne ou qu'on vulgarise. Donc notre méthode, j'ai essayé de me demander ce que c'était que notre méthode avant de venir vous voir. Alors notre méthode au début, c'est alors faire de l'innovation. Bon, ça ne veut pas dire grand-chose, hein, faire de l'innovation. On essaye quand même, quand on fait quelque chose, de s'assurer que personne ne l'a déjà fait à l'identique. Donc essayer quelque chose d'un peu nouveau. Donc c'est ce qu'on appelle innovation. Et ce n'est pas pour ça que c'est bien, mais juste on essaye d'innover, de faire un truc différent. Et juste après, on essaye de le tester nous-mêmes. Et là, ce qu'on fait, c'est à la fois pour la vulgarisation et l'enseignement. Donc l'enseignement, en gros, ben, nos étudiants sont nos cobayes. Ils n'ont pas le choix, donc voilà, on fait ça sur eux. Et puis derrière ça, on va essayer de mener des recherches, alors là pour le coup plus académiques, notamment avec des gens de la didactique ou avec des gens des sciences du design, des sciences de l'information et de la communication, donc des chercheurs dans le champ des sciences humaines et sociales pour le coup, pas trop des physiciens, et avec qui on va essayer de comprendre dans certains cas, certains points particuliers, que ce que ça a fonctionné, pas fonctionné, qu'est-ce qui se passe par exemple quand on met un physicien avec des designers, qu'est-ce qui se passe quand on met des étudiants dans une fiction. Et ça, on va le publier de façon très académique dans des journaux du genre American Journal of Physics ou des journaux de Physics Education. Et puis la dernière partie qui me tient à cœur, c'est la partie de la dissémination. Alors, très souvent dans ce monde de l'innovation pédagogique, les gens font des choses formidables et on n'en entend jamais parler. Ou alors vraiment, au coup de bol, au moment du café, ils nous disent « Ah bah tiens, moi j'ai fait un truc dans ma classe, c'était très marrant et tout », et on découvre ça à ce moment-là. C'est bizarrement un monde où je trouve qu'on n'a pas une très forte culture de la dissémination. Et il y a un truc un peu schizophrène qui, moi, me fascine complètement, c'est que dans mon monde à moi, qui est le monde des enseignants-chercheurs, vous avez la même personne qui passe la moitié de sa vie à faire des recherches où il ne fait que disséminer, c'est-à-dire qu'une recherche n'a pas de sens s'il ne l'a pas publié, s'il n'a pas été en conférence, s'il n'a pas été en séminaire et s'il n'a pas saoulé tous ses collègues avec ses résultats et sa méthode et ce qu'il a fait. Et puis dans la deuxième moitié de sa vie, il va enseigner, là en général il est tout seul, personne ne vient jamais le voir dans sa classe, et quand il fait un truc nouveau, parfois il en parle à un collègue, mais pas toujours. Et au mieux, il en parle au collègue, voire au département, et c'est vraiment le maximum. Et c'est très rare qu'il publie un article dessus, c'est très rare qu'il aille dans une conférence sur le sujet, et c'est très rare qu'il en parle au niveau international. Et c'est hyper bizarre, et c'est très dommage, parce qu'il se fait plein de choses formidables que souvent on rate, juste parce que les gens n'ont pas ce réflexe qu'ils ont pourtant dans leur autre moitié de vie, qui est le monde de la recherche. Donc voilà, cette question de la dissémination, moi elle me tient à cœur. Et on essaye de le faire dans l'équipe. Donc ça, c'est notre méthode, et on fait ça pour la vulgarisation et pour l'enseignement. Donc, on ne fait pas ça tout seul, parce qu'on s'est très vite rendu compte que tout seul, ben, on n'avait aucune idée, en fait. On n'est pas très originaux, on a été formés par les mêmes études que nous-mêmes, on enseigne derrière. Hein. Je pense que c'est le lot de tous ceux qui sont enseignants-chercheurs ou enseignants, c'est-à-dire que vous avez suivi des études et vous réappliquez à peu près le même modèle, ce qui est bien normal parce que vous n'avez pas connu autre chose. Et donc, nous, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas connu autre chose, donc très vite, on s'est entouré de plein de gens qui faisaient des choses différentes, et en particulier les designers. Donc, je vais en reparler après, mais c'est vraiment avec eux qu'on travaille beaucoup sur ces questions-là. Alors derrière se cachent plein de façons de faire du design objet, du design d'espace, de scénographie, de graphisme, de vidéo, d'illustration. Et on travaille avec tous ces gens-là. Évidemment, on a plein d'activités avec le grand public, avec les chercheurs, les collègues, avec les services de communication, beaucoup, dans toutes les institutions. et puis avec ce que j'appelle les pros de la médiation, c'est-à-dire les musées de sciences, les associations de culture scientifique, et on a plein de collaborations avec ces gens-là. Et puis évidemment, avec nos étudiants, avec des enseignants, y compris des enseignants du secondaire. Et puis, un petit peu plus épisodiquement, mais de temps en temps, on travaille aussi avec le monde de l'entreprise. Donc on a tout un réseau. Alors je vous dis tout ça pour faire genre, on est plein, parce qu'en fait, on est deux. C'est vraiment minable, cette équipe. Et on est deux enseignants-chercheurs, Frédéric Bouquet et moi-même, et qui faisons ça. Et donc, on s'est entouré de plein de designers et plein de gens pour essayer de décupler un peu les forces, parce que littéralement, on est une équipe de deux. Voilà. Alors, je vous ai mis plus de visages pour faire genre, mais donc c'est nous deux en haut à gauche. Il y a Lou Andreas, qui est une designer qui maintenant travaille avec nous à peu près à plein temps. Et puis, on s'entoure de plein de gens. Donc là, j'ai mis les gens qui étaient dans l'équipe en ce moment. Donc, il y a Anaïs, qui travaille beaucoup sur les questions de communication et de vulgarisation. Juliette, qui fait du graphisme et de l'illustration. Marie, qui est plutôt sur du design d'espace événementiel, etc., etc. Voilà. Alors, ce qu'on a fait depuis 10 ans, j'ai essayé de faire un petit bilan chiffré en me disant, oh là là, il faut que je leur montre un peu ce qu'on a fait et qu'on a fait des trucs, parce que sinon, je vais passer pour un charlot. Donc, j'ai essayé de compter ce qu'on avait fait depuis 10 ans. Je me suis dit, l'anniversaire, c'est le bon moment pour compter. Donc on a fait 320 projets, voilà. On a fait 20 articles de recherche, on a fait 16 enseignements. Alors ça ne veut pas dire qu'on a fait que 16 enseignements, parce qu'on est enseignant-chercheur, donc on en fait beaucoup. Mais 16 fois, on a fait un truc nouveau. Voilà. Et puis, pour le grand public, on a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de conférences grand public, dans les lycées, dans des lieux comme celui-là. On a fait des expos, et puis on a une présence sur Internet et sur les réseaux sociaux plus récemment, et où il y a du monde qui nous suit. Voilà, ça c'était les chiffres du jour. Alors du côté de la vulgarisation, on fait plein de choses et je vais aller hyper vite parce que ce n'est pas le sujet du jour, mais pour que vous voyez le genre de choses qu'on peut faire et jusqu'où on peut pousser des médias, parce qu'on s'en sert aussi nous parfois dans l'enseignement. Donc ça peut être des petites animations 3D, par exemple, pour parler de physique quantique. On en a fait plein sur à peu près tous les sujets qu'on pouvait imaginer, tous les microscopes possibles. Donc ça, c'est que des trucs que vous pouvez télécharger en ligne si vous en avez besoin. Ils sont avec sous-titres, sans sous-titres, en français, en anglais. On adore faire des petites expériences. Ça, c'était une des premières qu'on avait faites, c'était un petit cirque supra. Et hier soir, on en a une nouvelle, mais là, j'ai pas eu le temps de vous la mettre parce qu'elle est sortie littéralement hier soir. C'est une pièce montée quantique. Je vous encourage à aller la voir. Elle est sur YouTube depuis aujourd'hui. On l'a faite en live hier soir sur TikTok pour vous dire ce à quoi je suis prêt. Donc, j'ai fait mon premier live sur TikTok et j'ai découvert en cours de live que, en fait, les gens qui regardent le live peuvent me mettre des trucs sur la tête. Donc, à un moment donné, j'ai un chapeau de cow-boy et c'est pas moi qui l'ai fait, je peux vous l'assurer. Voilà. On adore travailler avec les illustrateurs autour d'objets tangibles. Ça, par exemple, c'est essayer de mettre en scène un ordinateur quantique. Donc, en gros, c'est un cryostat à dilution. Et en essayant de montrer avec les différentes couches ce qui se passe dans un laboratoire de physique quantique. On peut aussi travailler sur le format de la conférence. Là, je vous fais la conférence la plus traditionnelle qui soit avec un PowerPoint. Mais j'adore faire autre chose. Là, par exemple, c'est une que j'ai faite récemment où il n'y a pas de PowerPoint. Je manipule des petits objets graphiques sous une webcam pour expliquer des trucs. Et alors, le truc rigolo avec cette conférence, donc c'était une designer graphique qui m'a construit plein d'outils graphiques, on a construit ça ensemble, et toutes les 10 minutes, je fais voter le public sur la suite de la conférence. Donc, ils doivent voter entre trois couleurs. Là, par exemple, ils devaient choisir entre trois chercheurs, et là, regardez, mettez-vous à ma place, et ben, on ne sait pas ce que les gens votent, en fait. C'est le système le pire au monde. Donc, comme toujours, comme en enseignement, à un moment donné, il faut mettre en pratique pour se rendre compte et s'améliorer. Là, c'est pire, là. Et vous vous mettez immédiatement deux tiers de la salle à dos, une fois que vous avez choisi une couleur. Mais on s'est bien marré. Donc ça, vous pouvez les voir sur Internet. Celle-là, par exemple, elle vient de sortir sur Internet. Autre exemple de genre de choses qu'on aime bien faire, c'est travailler sur la question de la représentation de la science et de ce qu'on peut dire, nous, de ce qui se passe dans les labos. Ça, c'est des petites séries d'interviews qu'on a fait récemment. Il y en a une trentaine. Je vous encourage à aller les voir. On a été interviewé des chercheurs un peu de tous les domaines à la fac et en leur posant des questions qu'on ne leur pose pas d'habitude, du genre est-ce que tu penses que tu gagnes bien ta vie? Est-ce que tu vas changer le futur? Et tout. Et en leur donnant des trucs du genre de la pâte à modeler pour s'exprimer ou des curseurs sur lesquels ils devaient jouer. Et c'est très drôle. Et surtout, soudain, ils ne sont pas en langue de bois, ils ne sont pas en représentation et ils se lâchent un peu. Et donc, c'est assez savoureux. Et je pense que ça dit des choses assez vraies sur le métier d'enseignant-chercheur et de chercheur. Et puis ça... Ah ouais. Ça, c'est un film qu'on a fait avec ICI, avec David et Pierre ICI à l'ENS et avec Charlotte Arène. On a travaillé presque un an sur ce film. Et c'est un film... Chut, tais-toi le film. Où on a attaqué le sujet à peu près le plus compliqué, c'est-à-dire la topologie en matière condensée. Et on a essayé avec un petit film développé par Charlotte, qui est absolument incroyable, à base de cubes en bois et de bouts de papier, d'expliquer au grand public ce qu'était la topologie en matière condensée. Et c'était un challenge et que je trouve bien réussi. Donc c'est ma collaboration avec l'ENS. Et j'espère qu'on en aura plein d'autres parce que moi j'ai trouvé que c'était une réussite. Donc je vous encourage à aller voir ce petit film après la conférence. Bon allez, on attaque le sujet du jour, l'enseignement. Est-ce qu'on peut enseigner les sciences autrement? Alors avant, il faut quand même se demander pourquoi. On en a quand même marre, il y a cette injonction à toujours devoir innover, qui moi-même me saoule un petit peu. Où est l'innovation pédagogique? Qu'est-ce que vous avez fait en innovation? Parfois, les vieilles recettes marchent bien. Et il ne faut pas à tout prix tout bouleverser en se disant c'est parce que c'est nouveau que c'est mieux. Il y a quand même ce défaut qu'on peut avoir et cette tendance qu'on peut avoir. Et je vais vous présenter plein de choses nouvelles, mais ne vous dites pas que c'est parce que c'est nouveau que c'est mieux, hein, vraiment. Donc pourquoi est-ce qu'on devrait enseigner autrement? Quel est le problème? Alors il y a plein de problèmes avec l'enseignement de la science et de la physique en particulier. Si on regarde les sondages, alors ça, moi j'ai vu ça une fois, ça m'a terrorisé. Ils ont demandé aux élèves, donc quand ils avaient 25 ans, ils leur ont demandé de quoi vous vous souvenez au lycée et c'était quoi les matières que vous avez préférées par ordre de décroissance. Donc la physique, on est troisième avant-dernier, je crois. Je crois qu'il y a le latin qui est pire que nous. Donc on laisse des mauvais souvenirs à une très grande majorité d'élèves en France de la physique. Si vous êtes dans le champ de la physique, vous avez tous dû subir ce truc au moment du dîner où chacun dit son métier, et puis ça arrive à vous, il dit ah, « moi je fais de la physique », et « ah ouais, je me souviens, mon prof de lycée, la physique, quelle angoisse et tout ». Voilà. Alors, aujourd'hui on m'a demandé de parler des sciences et pas que de la physique, je vais vous parler que de la physique, parce que je ne connais que ça, et donc je vous encourage, si vous-même vous êtes dans le champ de la chimie, de la biologie, des mathématiques, de l'informatique ou des sciences humaines et sociales, à vous demander est-ce que ce qu'il raconte peut s'adapter à mon champ à moi. Alors vous allez voir que je pense qu'il y a des choses qui sont communes à tous les champs et d'autres où c'est vraiment un truc de physicien. Et je m'en excuse à l'avance. Donc quel est le problème avec les sciences? J'en sais rien, avec la physique j'ai des bonnes idées. Donc un exemple pour se rendre compte du problème d'après moi, donc ça n'engage que moi, c'est de se prendre un TP à la fac. Donc là je vous prends un TP que j'ai moi-même enseigné quelques années au magistère de physique. Alors c'est filmé là, donc je vais me mettre à dos tous mes collègues instantanément. Je pense qu'il est encore enseigné ce TP, je ne sais pas s'ils ont encore le même poly. Donc poly en LaTeX, hein, bien sûr. Hein. TP hyper fréquence, donc vous avez un poly, très bien foutu, hein, qui vous explique ce qu'il faut faire dans le TP. Donc au début on vous rappelle les éléments théoriques utiles, puis après on vous dit ce qu'il faut faire. Donc on vous présente le matériel et puis après on vous dit alors petit A tu fais ça, petit B tu fais ça, étude qualitative, étude du machin, étude du truc. Puis vous êtes devant une paillasse en général avec le guide d'onde qui est déjà monté, puis il faut tourner les bonnes vis dans le bon sens. Quand vous êtes paumé, vous demandez à l'enseignant mais pas trop parce que vous savez qu'il y a quand même une note à la fin. Et vous devez rendre le rapport peut-être pour le soir même. Alors donc il y en a un qui fait le rapport pendant que l'autre fait le TP. Et en gros ça avance bon an mal an, vous êtes quand même dans du stress hein, en vous disant il y a une note derrière donc il faut que je réussisse mon truc. Donc si la manip marche pas, vous êtes tout de suite dans des états de stress et vous râlez très très vite contre le matériel, contre l'enseignant, contre le poly et tout et tout. Et c'est à peu près ça le TP de physique de base tel que moi je l'ai vécu en tant qu'étudiant et que je l'ai enseigné pendant des années. Et ça marche bien parce que ça apprend aux gens ce qu'est un guide d'onde, comment le manipuler, donc je suis pas en train de dire qu'il faut mettre ça à la poubelle, hein. Comprenez bien mon message. Mais pour moi le problème avec ce TP c'est pas forcément sur le sujet, c'est sur l'image que ça donne de la physique. C'est-à-dire que quand soudain on va en stage dans un labo ou qu'on va en thèse dans un labo, on se rend compte que c'est pas exactement ça la physique, et la recherche en particulier. Et donc il y a une sorte de hiatus, de contradiction entre ce qu'on est en train de montrer comme image de la physique expérimentale à nos étudiantes et à nos étudiants et ce que nous-mêmes on connaît dans notre vie quotidienne de chercheurs. Donc ce que ça véhicule à mon avis comme fausse image de la physique, donc je ne sais pas si ça s'applique aux autres disciplines, hein. Premier truc, on a l'impression qu'une expérience c'est fait pour vérifier une théorie. Hein. Sur votre guide d'onde, il faut retrouver le cours, en gros, et la courbe du cours. Alors évidemment que ce n'est pas ça. Toute l'histoire de la science nous montre qu'à peu près toutes les grandes découvertes, c'était l'expérience avant la théorie. C'est parce qu'on ne comprenait pas l'effet photoélectrique que Einstein arrive. C'était parce qu'on ne comprenait pas, etc. etc. D'accord ? C'est très rare qu'une théorie émerge spontanément. Donc en général, les expériences viennent avant ou en même temps. Rarement après, parfois, hein, le boson de Higgs par exemple. Mais très rarement. Et pourtant, vraiment, l'étudiant, il a l'impression que l'expérience, ça sert à vérifier la théorie. Donc que c'est un peu chiant quand même, il faut bien le dire. Hein, que la théorie, c'est le truc fun dans l'histoire. L'autre problème, c'est l'image que la physique, ça se fait en binôme, et encore le binôme, la moitié du binôme bosse sur le rapport, en général. Donc ça se fait seul à galérer sur tourner ces trucs. Quoi. Donc c'est un travail solitaire, la physique. Évidemment, dès qu'on a été dans un laboratoire, on se rend compte que la plupart du temps, on est à deux ou trois sur l'expérience, au moins au début. Quoi. Autre truc qui ressort de cet TP, c'est que quand même, on est dans un labo, sur une paillasse, isolé du reste du monde, et on fait de la physique. Et évidemment, ça n'a aucun lien avec la vie quotidienne, ces hyperfréquences bizarres-là. D'accord ? On ne voit pas du tout le rapport avec son téléphone portable, par exemple, alors que c'est en gros exactement la même physique dans l'antenne d'un téléphone portable. Autre truc que ça véhicule, c'est que quand même, la physique, ça ne sert pas à grand-chose, sauf à se faire des équations chouettes et des courbes chouettes, et en particulier, pour les crises qu'on est en train de vivre et qu'on va vivre de plus en plus, ça ne sert pas à grand-chose. Et ça, c'est un sacré problème, alors purement corporatiste, si on veut continuer à embaucher des étudiantes et des étudiants dans les années à venir, qui vont de plus en plus se dire, mais est-ce que moi, je vais servir à quelque chose pour les problèmes qu'on va devoir affronter? Et est-ce que faire des études de physique, ça va vraiment me servir à quelque chose par rapport à d'autres études? Il va y avoir ce jeu de compétition avec les autres études qu'on n'avait pas forcément jusqu'à présent et qui va se jouer de plus en plus. Et là, clairement, après un TP hyperfréquence, je ne me dis pas que je vais servir à résoudre les problèmes du monde. Et puis le dernier truc, je ne savais pas comment le formuler, c'est vraiment très mal formulé, mais en gros, quand même, la majorité des étudiants n'ont pas un grand plaisir à faire des TP. Alors, je ne parle pas peut-être des rares étudiants normaliens dans la salle, machin et tout. L'étudiant de base à la fac, il s'ennuie quand même en TP. C'est quand même une galère et une souffrance pour lui. Et ça me pose problème et on n'en parle pas assez souvent. La question du plaisir à venir en cours le matin. Et ce plaisir, il peut ne pas être là pour plein de raisons. Hein. L'une d'entre elles, c'est qu'on a une note à la fin de la journée, donc on est dans le stress. L'autre, c'est le matériel. L'autre, c'est la difficulté. L'autre, c'est de la longueur du poly. Mais il y a ce truc de plaisir qui est quand même un peu absent des TP. On a l'impression que c'est quand même une torture pour la plupart des étudiants, ces moments de TP. Alors évidemment, vous vous dites que ça s'applique peut-être pas à vous, et j'en suis bien d'accord. Je vous raconte une expérience personnelle et de ce que j'ai vu de mes collègues au fur et à mesure de quelques années. Donc voilà, tous mes symptômes. Et donc maintenant, tout ce que je vais vous montrer, ça va consister à essayer de traiter un peu ces symptômes. Voilà. C'était ça, moi, mon objectif. Donc l'objectif, ce n'était pas du tout essayer de réinventer l'enseignement de la physique, mais les TP. Est-ce qu'on pourrait faire des TP un peu plus sympas? Voilà. C'était ça le seul objectif qu'on avait dans les 10 dernières années. Et nous, on n'a fait que ça. Donc pour répondre à ces symptômes, vous avez compris que notre stratégie, c'est d'aller choper les designers. Alors si je suis un peu plus précis, dans le monde du design, il y a plein de choses qu'on peut récupérer. Le monde du design a une grande habitude, par exemple, de travailler à partir de matières frugales. On va donner 3 bouts d'alu, 2 bouts de plastique, 1 bout de fil, et ils vont essayer de fabriquer quelque chose. Le monde du design a développé plein d'outils, notamment des outils comme les cartes Arduino ou autres, qui viennent du monde des Fab Labs en particulier, et qu'on n'a pas l'habitude, ou qu'on n'avait pas l'habitude, en tous les cas, d'utiliser en physique. Dans le monde du design, il y a toute une tradition du prototypage et du prototypage rapide. On ne va pas discuter des heures à faire des plans, des machins, on y va. On essaye, on fabrique, on teste, on regarde, on rebricole, on rechange, on fait évoluer. Et puis, dans le monde du design, ils n'enseignent pas comme chez nous. La première fois que j'ai été bosser avec une école de design, ce n'est pas le design qui m'a fasciné, c'était comme ils enseignaient. Par exemple, j'étais à l'ENSI, alors ils avaient des paliers, et tous les 6 mois, ils changeaient de palier et chaque étudiant devait réorganiser son espace de travail. D'accord? Avec des projets. Ils travaillaient sur un projet pendant 6 mois avec un enseignant qui venait de temps en temps, puis ils étaient par groupe, les groupes se faisaient, se défaisaient et tout. J'avais jamais vu ça de ma vie, moi, en physique. Hein. Et puis enfin, dans le monde du design, il y a les designers. Et donc on s'est dit, ben, on va piquer absolument tout ça. Donc ça a été que du plagiat pendant 10 ans, en gros. Pomper toutes leurs méthodes, tous leurs outils, les piquer eux-mêmes et leur dire, viens réfléchir avec moi. Donc là, j'ai ma super animation du jour, vous êtes prêts? C'est mon animation PowerPoint. Aucun designer ne doit voir ça. Attention, c'est parti. Oh! Je vous la refais parce que j'ai mis beaucoup de temps à la... Oh! Merci, merci. Et donc, on s'est dit, on va essayer d'appliquer ça dans notre territoire à nous. Alors, mon territoire à moi, c'est quoi? C'est la licence à la fac, L1, L2, L3, les doubles licences aussi. L'Institut Villebon-Charpak, c'est une licence scientifique qu'il y a à la fac, mais qui est sur un public très divers, à 70% boursier, avec plein de profils très variés, y compris des bacs techno, donc une licence assez particulière et qui essaie de développer de l'innovation pédagogique. Et puis on travaille aussi beaucoup à faire des formations pour les professeurs de lycée et de collège. Et puis on a aussi développé quelques formations pour les pays émergents, notamment en lien avec certains pays en Afrique. Donc c'est ça notre territoire et notre terrain de jeu, on va dire. Et donc maintenant, je vais vous montrer quelques exemples de ce qu'on a pu développer ces dernières années autour de ces questions-là. Donc à chaque fois, je prends un symptôme et je vous dis comment nous, on a essayé de le traiter. Donc premier symptôme, on a l'impression que la physique ne s'applique pas à la vraie vie et que c'est vraiment toujours coincé dans des salles de TP devant des paillasses. Donc là, notre solution, c'était de prendre des smartphones. Le smartphone, c'est bien pratique parce que tout le monde en a sur lui, en gros, tous nos étudiants, en tous les cas, et nos étudiantes. Et c'est un couteau suisse pour un physicien. Le smartphone, c'est un couteau suisse, c'est-à-dire que ça contient des tonnes de capteurs qui marchent hyper bien. Donc évidemment, vous pouvez faire de l'audio, vous pouvez dans certains smartphones, en tous les cas, mesurer la pression, vous pouvez mesurer la lumière, sauf dans les iPhones qui ont bloqué ça. Vous pouvez mesurer le champ magnétique avec une très bonne précision, vous pouvez mesurer l'accélération, vous pouvez mesurer la rotation, il y a un gyroscope dans le smartphone. Et toutes ces mesures marchent très bien. Et il y a des applications gratuites hyper bien qui ont été développées pour ça. Alors nous, on bosse en particulier avec deux entreprises, on va dire, mais derrière, il y a de l'institution aussi. Les gens de l'université d'Aix-la-Chapelle qui ont fabriqué Fifox. Alors nous, on a fait la traduction française de Fifox, donc c'est une petite appli gratuite pour manipuler tous les smartphones, mais dans un langage de scientifique, avec des courbes, avec des datas, des choses comme ça. Et Physique, qui est pour plutôt les collèges et les écoles primaires. Et on travaille aussi avec les gens de physique qui sont super et qui travaillent avec la main à la pâte, notamment, pour développer aussi l'usage de smartphones pour faire de la physique. Donc une fois que vous avez votre smartphone, l'intérêt, c'est que tout le monde en a un. C'est que vous pouvez sortir enfin de cette fameuse salle de TP et aller ailleurs pour mesurer des choses, hein, dans votre cuisine, dans votre garage, dans la rue. C'est que vous pouvez du coup laisser beaucoup plus de place à d'autres choses, à de l'autonomie. Les gens peuvent partir avec leur smartphone, parce que de toute façon c'est leur smartphone. Et puis ils peuvent bricoler autour, ils peuvent construire un outil qui tiendrait le smartphone, qui le manipulerait ou autre. Et puis ça donne des possibilités complètement inexplorées jusque-là. Du genre, ben, au lieu de dire aux gens, ben, ce week-end tu fais un devoir à la maison, un DM, on leur dit, ben non, tu fais un TP. Tu vas aller mesurer ta bouilloire ou mesurer la pression ou faire je ne sais quoi. Et ça peut devenir des TP à la maison. Donc on a développé tout ça de plein de façons avec plein d'activités que vous pourrez retrouver sur le site. Plein d'activités ludiques, plein de TP. Je vous donne trois petits exemples. Et à chaque fois, je vous ai mis une référence si vous voulez lire vraiment un article de recherche qu'on a fait dessus ou un article un peu plus sérieux. Ben, on a essayé de beaucoup les utiliser dans nos enseignements. Par exemple, on a fait un enseignement de smartphonique. Ça, c'était pour trouver un nom classe. On a piqué ce nom-là à Ulysse Delabre, hein, qui est un des pionniers en la matière à Bordeaux et qui est un collègue avec qui on a fait plein de choses. Donc, en gros, ben, vous faites rien, quoi. Vous arrivez dans la salle, vous avez zéro matériel, peut-être juste des mètres à mesurer et de la ficelle, et vous leur dites, sortez vos smartphones et on va trouver une expérience à faire ensemble. Donc là, par exemple, je pense qu'elle est en train de mesurer la chute des corps, hein, avec son manteau en bas pour amortir. Et là, tout de suite, quand on est physicien, on est effrayé, quoi. On se dit, c'est une catastrophe. L'expérience ne peut pas être bonne. Alors, pour plein de raisons, hein. Le téléphone, il va faire ça en tombant, déjà. Où est l'accéléromètre dans le téléphone? Et puis, est-ce qu'ils tiennent bien compte de l'épaisseur des manteaux? Et puis. Et donc, on se dit tout de suite, mais par rapport à une manip de TP que j'aurais fait un peu clean sur la chute des corps, les résultats vont être pourris. Et ça, c'est vraiment un point clé, à mon avis, et qui pose problème parfois quand on discute avec les collègues qui nous disent, la manip, elle est moche. Et nous, c'est notre but que la manip, elle soit un peu ratée. Parce que c'est là où les choses intéressantes arrivent en enseignement. C'est de leur dire, mais alors, c'est quoi ta barre d'erreur? D'où il vient ton bruit? Est-ce que ton problème, c'est essentiellement le manteau? Est-ce que c'est le moment où tu l'as lâché? Est-ce que c'est le fait qu'il tourne sur lui-même? Etc., etc. Si la manip, elle marche trop bien dès le début, évidemment qu'il trouve un 1,5 GT carré parfait. Donc nous, on travaille beaucoup là-dessus. Et puis le côté, ben vas-y, fais ta manip tout seul. Donc il y en a qui choisissent de lâcher d'un mètre. Il y en a d'autres qui disent, mais est-ce que je peux sortir dehors et lâcher de deuxième étage, troisième étage? Bon, alors on leur dit, ok, mais il faut peut-être l'emballer, faut peut-être machin, puis il y a peut-être d'autres façons de mesurer, ou peut-être que tu vas lâcher autre chose et le téléphone, il va filmer la chute et faire de la chronophotographie, etc., etc. Donc il y a cette démarche-là, on peut le faire sur plein de sujets, de la mécanique. Là, ils sont en train de faire quoi? Moi, je pense du champ magnétique, visiblement. Là, ils sont en train de transformer leur smartphone en microscope en mettant une goutte d'eau dessus. Et ça pose plein de questions passionnantes. C'est quoi l'agrandissement? Si vous faites ça, c'est subjugant, hein. Vous avez un facteur 30 ou 40 d'agrandissement mettant une goutte d'eau sur la caméra, juste, parce que ça fait lentille. Et comment on joue la taille de la goutte d'eau, par exemple? Et là, soudain, ça devient un petit peu subtil, hein. Arriver à jouer sur le diamètre de la goutte, mesurer le diamètre de la goutte, faire agrandissement versus diamètre de la goutte, etc., etc. Mais ils rentrent chez eux et ils ont un microscope dans la poche maintenant. Et là, je ne sais vraiment pas ce qu'ils faisaient. Ah si, 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 là c'est testé, vous savez, toutes les lois où vous remplissez une bouteille d'eau avec plus ou moins d'eau et vous regardez quelle est la valeur de la fréquence et du son. Donc il doit être en train de souffler sur sa bouteille et ils sont en train de mesurer en direct et ils vont essayer de voir s'ils trouvent des lois avec des modèles de Helmholtz, etc., de formes de bouteilles. Donc il y a des longues discussions sur bouteille de vin versus bouteille de bière qu'adorent les étudiants en général. On s'est posé la question de décliner ces activités au lycée au moment du confinement. Au moment du confinement, nous, très vite, une semaine à peu près après le premier confinement, on a dit à tous nos étudiants qu'on avait en TP tous les vendredis, on continue. Donc on continue, mais c'est chez vous maintenant. Donc inventez-vous des manips dans votre parking, dans votre garage, dans votre cuisine, dans votre chambre de CTU, et on va se voir tous les vendredis par Zoom. Je pense qu'on ne savait même pas que Zoom existait à l'époque, hein, la première semaine. Donc on devait dire par Skype. Et on va essayer de faire des expériences ensemble à distance. Vous avez votre smartphone, donc vous allez pouvoir faire des trucs. Et ils nous ont fait des expériences fabuleuses. Il y en a qui nous ont mesuré si la Terre était ronde ou pas en prenant des gens à différents endroits de la Terre et en les appelant et en faisant des manips à l'Ératosthène. Il y en a qui nous ont fait des expériences. Ah oui, celle-là, elle était incroyable. Vous avez découvert un article qui montrait que quand on regarde en gros la forme des petits patchs de lumière, des petits grains de lumière créés dans une forêt par les arbres qui tamisent comme ça la lumière, en regardant la taille en gros des taches de lumière, on peut remonter à la densité volumique du soleil. Donc ils ont fait des tas de trucs dans leur jardin et tout pour faire ça, etc., etc. Et puis au lycée, ben, je ne sais pas trop ce qui se passait, mais c'était quand même la galère. Et donc en discutant avec des profs de lycée, et notamment Jacques Vince, qui est en train d'enseigner à l'heure actuelle, je crois, à quelques kilomètres d'ici dans un lycée, on s'est dit qu'il y avait peut-être quelque chose à faire pour aider les profs de lycée, eux aussi, à enseigner à distance. Et l'enjeu à l'époque, je me souviens, on était en mars-avril 2020, c'est ça, hein, c'était est-ce que l'année prochaine, tout le monde sera encore confiné ou pas, et est-ce qu'on aura accès aux salles de TP ou pas? Alors, il se trouve que ça a été un peu mieux que ce qu'on pensait, les gens ont quand même eu réaccès aux salles de TP, mais on s'était dit, il faut pouvoir faire des TP à la maison. Et donc là, on s'est dit, attention, c'est les lycées, on ne peut pas faire n'importe quoi. On a demandé aux inspecteurs ce qu'on avait le droit de faire. Et donc, ils nous ont dit, bosser avec des profs. C'était le premier conseil. Et donc, on a bossé par Zoom. On ne s'est jamais vu en vrai, je crois. Alors, Jacques, je le connais en vrai, mais Patricia et Jean, je ne les ai jamais vus en vrai. Mais en 2020, on s'est vus par Zoom et on a monté des TP par Zoom sur ces six sujets-là. Mais là, pour le coup, c'est des TP pour les lycées. Donc, bien plus cadrés, évidemment. Donc, on explique, par exemple, quand Galilée lâche son smartphone avec des fiches de TP, des corrections, des trucs, etc., etc., sur la rotation, mais que des choses où on utilise les soreuses à salade chez soi et on utilise tout ce qu'on a chez soi. Mis quand même dans un langage graphique qui nous plaisait, donc on a demandé à nos designers de bosser dessus, mais c'est des TP qui sont maintenant dans Eduscol et dans les trucs officiels que peuvent utiliser les profs. Et puis troisième déclinaison, c'était pour le grand public. Vous voyez, on aime bien avoir ce continuum quand on peut. C'est-à-dire commencer à la fac avec nos étudiants, parce que c'est quand même facile à tester. Ensuite, si possible, aller dans d'autres univers, par exemple le monde des lycées. Et puis après, voir si on ne peut pas faire un truc, y compris pour le grand public. Alors grand public, si on commence à leur demander de mesurer la chute des corps avec une courbe, un demi de GT carré et tout, ils vont un peu ramer. Et donc on voulait retrouver une motivation, un petit truc qui sonne bien. Et donc c'est sorti d'une discussion de café, hein, des discussions de café complètement folles de physiciens. On s'est dit, tiens, est-ce qu'on pourrait mesurer la hauteur d'un bâtiment avec un smartphone? Donc on s'est dit, bah oui, bien sûr. Puis chacun a commencé à avoir son idée, puis on les a recensés et on les a presque toutes essayées. Donc on en a trouvé 61. Donc voilà, ça s'appelle le Smartphone Physics Challenge. Et on les a toutes documentées avec une designer, pareil. Alors donc sur les 61, je crois qu'on en a testé 55. Il y en a 7 qui sont impossibles à tester. Il y en a une notamment où il y a des sources radioactives de folie, donc qui ne marchent pas du tout. Et on les a classées par niveau de difficulté, niveau de performance. Alors la 61e, c'est d'appeler l'architecte, en gros, parce que votre smartphone, il sert aussi à faire téléphone. Et on n'avait trouvé aucune application du téléphone, on était un peu embêtés. Alors que vraiment, on avait tout fait. Et ça, c'est un atelier intéressant, parce que soudain, on peut commencer à faire des choses amusantes. Par exemple, la version la plus simple, c'est vraiment Thalès ou de la trigonométrie, qui, en gros, vous accrochez votre smartphone sur un balai, vous le tenez comme ça, puis vous allez mesurer des angles, et vous avez une très bonne hauteur de bâtiment. Et vous pouvez faire ça comme ça, voilà. Donc ça, c'est notre bâtiment, c'est le laboratoire de physique des solides. Autre exemple, bah, vous lâchez le smartphone. Donc là, il y a des gens en bas avec un drap. Donc on a tué 2 smartphones dans l'histoire, parce que j'étais très sûr de moi. Donc j'avais dit, alors vous vous mettez en bas avec les draps, vous êtes prêts à 3, 1, 2, 3, je lâche. Et il y avait du vent, j'avais oublié le vent. Donc le vent a tout rabattu dans l'escalier de secours que vous voyez et a explosé le smartphone. Donc maintenant, on fait ça quand il n'y a pas de vent. Voilà. Etc, etc. Et donc vous voyez, toujours la même idée, on utilise le smartphone pour emmener les gens dans le monde de la physique sans qu'ils s'en rendent compte au début du moins. Je continue. Deuxième symptôme, les expériences vérifient la théorie et il n'y a pas de place pour la créativité. Il y a quand même ce truc ancré chez les étudiants qu'un TP, c'est pas créatif. Quoi. On fait ce qu'on nous demande, pas à pas, et il n'y a pas de place pour l'innovation, la liberté, l'autonomie, la créativité. Hein, ce qu'on aurait par exemple dans une école de design. Donc ça, pour remédier à ça, vraiment, on a copié les designers. Donc eux, ils enseignaient par projet. Donc on a dit, on va enseigner par projet. Moi, je ne savais pas ce que ça voulait dire, enseigner par projet. Donc en gros, ce que ça veut dire dans mon langage à moi, c'est que déjà, vous mettez les étudiants par, je ne sais pas, 2, 3, 4. Et puis vous arrivez au début, vous leur dites, on a un certain temps ensemble. Alors si possible, par exemple, un temps regroupé. On a 5 jours ensemble, où on a, je ne sais pas, une demi-journée par semaine pendant 6 mois. Et on va faire un projet. C'est en gros dire, on va faire une expérience de physique, hein, parce que quand même, nous, on est physiciens. Mais la grande différence avec ce qu'on faisait jusque-là, c'est qu'on n'arrivait pas avec une liste d'expériences. On disait, choisissez une expérience, puis vous la fabriquez. On disait, ben on n'a rien, et vous allez imaginer vous-même une expérience que vous aimeriez faire, on va vous dire si c'est faisable ou pas, et puis on se lance, et on ne sait pas bien si ça va marcher ou pas, et on verra, et on s'adaptera en cours de route. Et alors ce truc-là, ça ne marche pas si votre matériel il est trop sophistiqué, parce que déjà, vous, enseignants, vous avez la trouille pour votre matériel, hein, qui vous pète tout, quoi. Et donc, on s'est très vite rendu compte que ça allait bloquer au niveau des collègues, au niveau du labo, et pour des tas de problèmes techniques. Donc là, on a été pareil, piquer ce que faisaient les designers, c'est-à-dire utiliser, donc ça c'est des articles, utiliser des cartes Arduino, qui coûtent en gros 10 euros, et qui permettent de faire à peu près tout moins bien que ce que vous faites dans un laboratoire. C'est exactement comme le smartphone, c'est tout pourri, ça digitalise, ça fait plein de bruit et tout. Mais pour nous, c'était l'idéal. Donc on a mis sur la table des cartes Arduino, on a acheté plein de Lego. Ça, on s'est rendu compte que dès qu'un étudiant voit du Lego, il se dit « Waouh, ça va être créatif, pourquoi pas ?» Plein de papier alu, de bouts de carton, de ficelles, enfin voilà, du matériel qu'on a acheté au Monoprix d'à côté, en gros. Et on a tout mis sur la table. Le truc le plus compliqué, ça a été de se faire rembourser le matériel. Parce que d'arriver avec une facture Monoprix où on avait acheté des pâtes, par exemple, c'était compliqué à justifier. Mais une fois que ça s'était passé, on a lancé les étudiants. Alors au début, il fallait leur apprendre les cartes Arduino. Donc là aussi, on a utilisé les designers pour développer un langage pour qu'on montre que ce n'était pas un TP écrit en LaTeX. Même si en fait, c'est un énoncé. Donc au début, c'était des défis, un peu comme dans des jeux, vous voyez, dans un univers un peu héroïque fantasy. Alors par exemple, le premier défi, c'est d'allumer une LED. Donc voilà, il faut allumer une LED. Et vous avez un super défi qui est, je crois, écrire votre nom en morse. Bon. Après, vous avez un deuxième défi qui est d'utiliser un interrupteur. C'est un peu nul, hein, les défis. Et puis, au bout de 5 défis, donc ça vous prend en gros 3 heures. Au bout de 3 heures, ils savent utiliser une carte Arduino. Et le dernier défi, c'est maintenant vous fabriquez un jeu. Et on leur donne une contrainte. Genre le jeu, il doit être à l'apéro. Ou le jeu, il doit utiliser une bouteille. Ou je sais pas quoi. Dès que vous mettez une contrainte, c'est bien plus facile pour eux de se lancer. Ils sont pas dans une espèce de flou artistique. Et donc ils partent. Alors donc après, ça devient absolument n'importe quoi. Donc là, c'était cas. Je crois que ça, c'était un truc qui servait l'apéro automatiquement à une certaine heure. Voilà. Bon, avec un petit moteur, un petit truc. Et on leur disait, on se fout complètement de la physique. Lâchez-vous. Ah ben, si on peut se lâcher, on y va. Évidemment, il y avait plein de physique embarquée. Mais nous, on n'en disait rien. Pour l'instant, c'était fait un jeu qui nous fasse marrer. Donc, il y avait plein de jeux de toutes sortes. Et puis, la dernière étape, évidemment, le lendemain matin, c'était maintenant, vous savez utiliser une Arduino. Vous savez faire un projet en temps limité. Donc, maintenant, on va faire la même chose, mais sur de la physique. Et vous allez fabriquer une expérience de physique. Et donc, c'est parti. On reconnaît à nouveau des Lego. Ce sont quand même les trucs les pires à utiliser avec de l'azote liquide. Ça, c'est ce que montre cette photo. Là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Je crois qu'ils ont fait une balance. C'est super compliqué de faire une bonne balance. Donc là, c'est tout un système de balance, je crois, pour mesurer une balance avec l'effet sur deux tiges. Et on doit mesurer avec des capteurs comment c'est déformé. Et on doit mesurer la déformation de la tige avec de l'eau qu'on met par-dessus. Ça, c'était le record là. Eux, ils étaient à fond, hein. Donc, eux, ils ont fabriqué une manip d'effet Timoshenko. Moi, je ne savais pas ce qu'était l'effet Timoshenko avant, donc mesurer de la friction dynamique. Et c'est la manip de Timoshenko, je pense, la moins chère au monde. Donc, ils l'ont publiée dans l'American Journal of Physics en disant une manière pas chère de faire des manips de friction. Donc là, c'est quand même sophistiqué. Ça leur a pris plus d'une semaine, je pense, pour faire ça, mais ça marche hyper bien. Et parfois, ça fait des manips pas terribles. Mais il faut faire son deuil de ça. C'est pas l'enjeu. L'enjeu, c'est qu'ils se rendent compte qu'ils peuvent fabriquer une manip eux-mêmes, de zéro, et qu'ils sont capables de ça. Et puis la dernière étape, je vous le disais, c'est la dissémination. Donc là, on a construit un site web spécialement, là encore avec des designers, qui s'appelle OpenTP, où chaque étudiant peut lui-même raconter sa manip sous forme d'un mode d'emploi, mais pareil, on le coince, on l'empêche de faire du LaTeX, donc il remplit des cases toutes faites, et à la fin, ça produit un mode d'emploi avec des jolis dessins, et que d'autres gens peuvent utiliser. Et sur le même site, on a mis évidemment les fiches Arduino, les machins et tout et tout. Donc ça permet que tout le monde partage un petit peu, en français ou en anglais d'ailleurs, des façons de faire des manips, puis à la fin, on a son petit mode d'emploi en BD, et c'est toujours sympa. Ça va, vous tenez le coup? J'enchaîne. Alors là, je vous fais trois symptômes d'un coup. Donc premier symptôme, la physique ne s'applique pas à la vraie vie. Deuxième symptôme, les expériences vérifient les théories, hein, on le connaît celui-là. Et troisième symptôme, on est toujours seul ou maximum à deux. Et donc on s'est dit, comment on pourrait faire un enseignement où on détruit ces trois symptômes? Donc là, la solution, c'était d'essayer d'utiliser la fiction. Alors utiliser la fiction, donc c'est un petit peu plus... disruptif, je ne sais pas quel est le mot, challenge, perturbant pour les enseignants aussi, c'est de plonger nos étudiants et nous-mêmes dans une fiction pendant un temps donné. Donc on les prévient bien à l'avance des règles du jeu, on va jouer un jeu, nous ne serons plus l'épreuve, vous serez plus les étudiants, etc., etc. On les prévient bien sur comment on va être évalué et tout et tout. Et une fois qu'on a tout bien dit à l'avance, on leur dit rendez-vous tel jour, telle heure. Donc là, en général, on leur envoie une convocation par Internet. Donc ça, vous trouverez ça dans ce papier-là. Donc on a fait plein de scénarios de fiction. Alors celui-là, c'était quoi? 2018? Ah ouais, là c'était l'Agence spatiale européenne qui les convoquait pour un week-end team building parce que c'était des ingénieurs de l'Agence spatiale européenne. Et au moment du week-end, ils découvrent évidemment appel secours de l'agence qui leur dit on est attaqué par des pirates informatiques, faut que vous remplaciez l'agence pendant 2 jours. Et on avait un vaisseau secret qui était en train de rejoindre une planète inconnue et qui est en train d'atterrir et il a besoin de votre aide. Débrouillez-vous avec eux, on vous donne le lien chat, je sais pas quoi, pour que vous leur parliez en direct. Et nous on vous laisse et débrouillez-vous, vous avez 2 jours. Et donc, ils vont être en contact directement avec le vaisseau. Donc, le vaisseau, évidemment, c'est nous dans une pièce d'à côté sur nos téléphones, hein, qui va leur demander des tas de trucs. Et alors, l'argument là de scénario, vous allez voir, c'est hyper lourd. Hein, c'était que, ah oui, à bord du vaisseau, il y a une valise où ils ont du matériel de base et ils n'ont rien d'autre parce qu'ils ont tout paumé au décollage. Hein, ils ne sont vraiment pas bons dans le vaisseau. Et donc, les étudiants, ils ont la même valise en double sur Terre et ils ne peuvent utiliser que ce qu'il y a dans la valise pour faire les expériences. Donc, pour nous, ça nous facilite plein de problèmes de matériel. Il n'y a pas le choix, il faut utiliser ce qu'il y a dans la valise. Et donc, première demande, je crois, du vaisseau, c'est on atterrit dans 2 heures. Il faut nous fabriquer un machin qui mesure la vitesse du vent sur la planète, un autre qui mesure le champ magnétique à 360 degrés, un autre qui... Enfin voilà, fabriquez-nous des outils de mesure. Et donc, ils ont 2 heures pour faire ça, donc c'est la panique. Donc, ils se mettent par groupe, ils travaillent, ils fabriquent, etc., etc. Ils ont des cartes Arduino, il y en a dans le kit. Ils ont des smartphones, il y en a dans le kit. Ils ont un peu de papier carton, de papier alu, et c'est tout, quoi. Et 3 pics à brochette, en gros. Donc après, alors là, ils avaient fabriqué quoi? Donc là, c'est les objets incroyables qu'ils nous ont fabriqués. À droite, vous reconnaissez un anémomètre, évidemment, hein. Le gros problème de l'anémomètre, donc c'est le truc qui mesure la vitesse de vent, c'était comment le calibrer. Voilà, ils disaient, mais il nous faut du vent et tout. Donc on disait, allez-y, courez, là, faites le vent. Donc on les voyait courir comme ça pour faire. Alors 3 mètres, alors je cours à 3 mètres par seconde, donc le vent et machin, et mon truc tourne et tout. C'était vraiment drôle. Et au milieu, je vois vraiment plus ce que c'est, ces objets-là. Je pense que c'est un truc qui mesure la lumière dans toutes les directions et en contrôlant l'angle, une sorte de goniomètre, je sais pas. Ah oui, à gauche, l'objet le plus foireux, c'est celui à gauche. J'espère que mes étudiants verront jamais ça. On leur a demandé de fabriquer un sismographe. C'est le pire sismographe du monde, celui-là. Parce qu'en gros, il amortit tous les chocs, donc c'est un anti-sismographe. Et en gros, faire mieux que juste un smartphone posé au sol, c'est compliqué quand vous voulez faire un sismographe, on s'est rendu compte. Et alors, le truc intéressant là-dedans, j'en parlais avec je ne sais plus qui là, à l'heure du pot tout à l'heure, qui se chargeait du. C'était toi, hein, qui se chargeait du French Physics Tournament, c'est ce truc exaltant pour les enseignants et terrorisant à la fois, qui est que nous-mêmes, on ne connaît pas la solution. C'est-à-dire, quand on leur a demandé de faire un anémomètre, un sismographe et autres, on n'avait rien fait avant, et vu qu'on n'avait pas le temps et qu'on était flemmards, on n'avait rien testé. Et donc, on découvre en même temps qu'eux les bugs, les canulars, et en fait, ce dont on s'est rendu compte, notamment dans les débriefs, en discutant avec eux après coup, en disant alors votre ressenti, qu'est-ce que vous avez appris, qu'est-ce que vous avez aimé, et un truc qui revient systématiquement, c'est qu'un truc qu'ils ont vraiment apprécié, c'est de nous voir merder comme eux devant l'expérience, sécher complètement, et de voir comment à ce moment-là on raisonnait. Donc, non pas de voir avoir le savoir direct du physicien qui arrive, qui dit tourne cette vis, ça y est, ça marche, mais de voir le physicien dans la même situation que l'étudiant et voir comment il réfléchit. Dire, bon, alors attends, je sais pas non plus, mais déjà on va se mettre des ordres de grandeur, qu'est-ce qu'il faut mesurer? Alors attends, il est où ma source principale d'erreur? Alors attends, on va faire une petite calibration, on va déjà mesurer un petit truc, puis après, et de voir comment nous-mêmes on raisonne. Et si vous vous souvenez, pour ceux par exemple qui ont fait un doctorat parmi vous, c'est comme ça qu'on a appris la recherche. C'est en voyant le directeur ou la directrice de thèse faire qu'on a compris comment ça se passait en vrai. Enfin, moi en tous les cas, c'est à ce moment-là que j'ai appris un peu la recherche. Donc voilà, de ne pas savoir à l'avance et d'être aussi mauvais qu'eux au début, c'est très intéressant à mon avis pédagogiquement. Ça explique aussi pourquoi c'est compliqué. Parce qu'on change de posture, parce qu'on est moins à l'aise, parce qu'on peut vraiment ne pas savoir à la fin. Et que donc pour l'enseignant, c'est un pari un peu risqué aussi, et c'est pas facile. Donc là, il fabrique je sais plus quoi. Ah oui, à un moment donné, il rencontre des extraterrestres, je crois. Il faut qu'il communique avec eux, qu'il lâche des machins dans un trou, qu'il communique à 15 mètres de distance avec de l'Arduino. Et je crois qu'ils doivent balancer un truc justement pour envoyer aux extraterrestres un outil de mesure et le truc ne doit pas casser. Donc là, je crois qu'ils sont en train de lancer le truc pour voir s'il va casser ou pas. Et puis évidemment, il peut y avoir de l'électronique derrière, un peu plus sophistiquée. Et là, ils testent ça. Alors, je donne un exemple de résultat scientifique, de didactique, qu'on a pu étudier dans ce cas-là, parce qu'on avait des groupes témoins. Là, pour le coup, on avait les mêmes étudiants, enfin, la même section, et il y en a qui ont fait ça, il y en a qui ne l'ont pas fait. Donc, on a pu comparer, en faisant des enquêtes auprès d'eux, un peu après, et puis en leur posant plein de questions, sur ce qui s'était joué dans cet enseignement. Et nous, on ne s'est pas posé toutes les questions, on s'en est posé une, c'est l'engagement. L'engagement, c'est un truc très important en didactique des sciences, plus généralement en pédagogie, c'est vos étudiants, à quel point ils sont engagés dans l'enseignement. Alors être engagé, ça ne veut pas dire grand-chose. En fait, les chercheurs ont identifié trois formes d'engagement. Il peut y avoir un engagement comportemental, dans votre comportement, vous montrez que vraiment vous êtes attentif, vous êtes là, vous êtes concentré. Un engagement affectif, ah, vous avez vraiment plaisir à être là. Et un engagement cognitif, ça carbure bien dans votre cerveau. Je le dis très très mal, hein, mais c'est en gros ça l'idée. Et donc on a comparé avec le groupe de référence et puis le groupe qui on avait fait des fictions, puis on l'a fait au moins dans deux enseignements différents et on retrouve à chaque fois les mêmes résultats. Ça ne change absolument rien la fiction, sauf pour l'engagement affectif. Alors déjà c'est pas pire, ce qui est plutôt bien. Donc quand on enseigne à peu près les mêmes savoir-faire, hein, qui étaient en l'occurrence ici des cartes Arduino, des choses d'électronique et tout, et un petit peu de fabrication, bah finalement en cognitif et en behavioral, en comportemental, que le TP soit classique ou qu'il y ait une fiction, il se comporte pareil. Le truc différent, c'est que visiblement, l'engagement affectif, le plaisir à être là, est bien plus fort dans la fiction que quand on n'est pas dans la fiction. Alors évidemment, nous, c'est quelque chose où au début, on se disait que ça allait être le cas, mais il faut le vérifier à un moment donné. Et le truc très important qu'on a vérifié là, ça peut sembler un point de détail, mais pour nous, c'était crucial, c'était est-ce que ceux qui ont l'habitude de faire des jeux de rôle, de faire des jeux de vidéo, de faire des jeux grandeur nature et autres, vont être plus à l'aise dans ce truc-là que les autres? Est-ce que ceux qui ont une culture ludique développée vont adorer les fictions et les autres vont se dire oh là là, le truc de fou? Et alors, la réponse, c'est pas du tout. Voilà, il y a des manières de sonder proprement, on a fait ça avec des sociologues du jeu, j'ai découvert, voilà, il y a des sociologues spécialistes dans le jeu et qui savent vous dire quelle est la culture ludique de quelqu'un, est-ce qu'il joue plutôt au Monopoly, plutôt à des choses plus évoluées, etc. Et on a vu qu'il y avait zéro corrélation avec le plaisir que les gens avaient à faire cet enseignement, ça nous a plutôt rassurés. Je continue. Autre symptôme, ah ouais, celui-là c'est un des plus durs, hein. C'est comment rendre la physique plaisante, c'est affreux de dire ça, hein. Ça fait un peu marchand de physique, mais bon, voilà. Et comment recréer du plaisir? Donc là, on a testé un truc, ça c'est un de nos derniers tests, on teste ça depuis un an, on s'est dit, 2024 Jeux Olympiques, nous aussi on va faire des Jeux Olympiques. Donc, je vous présente les Jeux Olympiques de la physique, alors là encore, on a pompé intégralement sur un jeu télévisé qu'on adore, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ça parmi vous, qui s'appelle Taskmaster, donc c'est sur YouTube, c'est un jeu anglais, donc en gros, c'est pas du tout scientifique, hein. C'est des people anglais, et à qui on fait subir des épreuves complètement délirantes. Des épreuves absolument absurdes, et vu qu'ils sont anglais, c'est toujours drôle. C'est toujours plein d'humour décalé et tout, parce qu'ils ont vraiment cet humour de l'absurde. Enfin, c'est vraiment Monty Python en direct. Et donc, il faut aller voir les épreuves. Alors, il y en a plein, nous, on s'est dit, ah, mais ça, c'est une épreuve de science. Mais eux, il n'y a quasiment jamais d'enjeu scientifique. Et donc, il y a eux deux qui font subir les épreuves aux gens et puis qui les martyrisent. Mais vu que c'est des people, on peut y aller, quoi. Et c'est très drôle. Donc, on s'est inspiré du principe. Et alors, ce que j'adorais dans ce jeu-là, c'est que eux deux, donc c'est les juges, surtout celui de gauche, le Taskmaster, ils décident de tout. Et quand il dit « toi t'as 3, toi t'as 5 », eh ben, il n'y a aucune manière de protester, c'est la règle absolue. Donc c'est l'arbitraire total, donc c'est bien pratique pour un enseignant, qu'il ne commence pas à discuter la note, en gros, pour le dire vite. Donc on l'a reconverti, nous, pour ne pas appeler ça Taskmaster et tout, à notre sauce. Donc on a appelé ça les défis olympiques, mais pas sportifs. Je vais vous montrer donc une petite vidéo pour vous montrer un exemple du genre de défi qu'on fait. Donc ça dure 2 jours, les élèves sont en équipe de 4 ou 5. Au début, on leur demande de se fabriquer un pays imaginaire, un slogan, un truc. Donc ils sont à fond, ils ont leur drapeau et tout et tout. Et puis on y va pendant 2 jours d'épreuve. Alors voilà le genre d'épreuves qu'ils peuvent avoir. Donc au tout début, pour les décoincer, ils ont 10 minutes pour fabriquer la tour la plus haute possible avec un matériel hyper réduit, genre 3 feuilles de papier et 2 élastiques. et mettre un smartphone en haut. Et au bout de 10 minutes, le smartphone mesure automatiquement sa position et son angle. Et il faut en gros qu'il soit le plus haut possible et le plus droit possible. Autre exemple, on leur demande de fabriquer un machin qui mesure le temps, mais où il n'y ait pas d'électronique dedans. Et on va leur lancer une vidéo après, ils vont devoir mesurer la durée de la vidéo. Donc ils sont partis avec des espèces de pendules, de trucs à gouttes d'eau, etc., etc. Autre objectif, balancer un œuf par la fenêtre. Il ne faut pas que l'œuf casse, il faut que la chute dure 2 secondes, pas plus. Et il faut que ça fasse le plus de bruit possible à l'atterrissage. Alors ça, c'est après plein d'essais erreurs, on s'est rendu compte qu'en fait, un œuf, ça casse vraiment pas facilement. Donc on s'est dit, on va corser un peu l'épreuve. Donc ralentir la chute, mettre juste la quantité de frottement qu'il faut, etc., etc., c'est toujours drôle. Alors ils sont passionnés de ballons, alors que les ballons, c'est pas si génial. Ils sont tous persuadés que les ballons vont péter en bas avec des systèmes de cure-dents. Alors il n'y a pas le son, mais en gros, ça fait pas beaucoup de bruit. Alors il y a toujours une équipe qui joue au malin. Alors là, vous allez voir, c'est la dernière équipe qui en fait un truc vraiment plus malin que les autres. C'est... Non, c'est pas eux. Eux, c'est vraiment pas malin. C'est eux. Eux, ils avaient une tyrolienne. Et en bas, ils avaient une des étudiantes qui appuyait sur un klaxon à l'arrivée. Et alors, là, c'est tout le truc du Taskmaster. C'est-à-dire qu'on peut parfois détourner un peu les épreuves et c'est au Taskmaster de dire si c'est dans les règles. Donc tous les autres étudiants sont outrés, ils disent « mais il n'y avait pas le droit, vous savez bien ». Et nous, on adore dire « relisez la tâche ». Donc après, ils essaient de trouver tous les biais dans les tâches. Enfin, voilà. Alors on peut faire un peu plus de physique. Celle-là, par exemple, elle n'est pas facile, celle-là. C'est fabriquer le plus petit pendule possible et mesurer sa période. Voilà, je vous encourage à essayer, c'est assez mais rigolo. Et après, on leur demande de présenter une comparaison entre leur expérience et un modèle théorique de pendule. Et alors, à petite échelle, tout devient très compliqué, mais ils arrivent à faire des choses assez remarquables. Ils arrivent à descendre, mais ils arrivent à descendre au millimètre dans certains cas, avec des petites agrafes refermées, avec des trucs et tout. Puis après, là, vraiment, ils font un TP de physique, quoi. Donc ils nous racontent un peu les mesures et tout. On peut être sur des trucs bien plus délirants. Allez, vous essayez de trouver, si vous la trouvez, l'équation. Donc, est-ce que vous avez trouvé l'équation, là ? Des propositions, allez-y. D'Alembert. Sinusoïde. D'autres propositions ? Alors, je vous montre la fin du film. Je ne vous ai pas montré la fin. Regardez. Ah, là, on comprend, là. Descartes, bien sûr. Bon, on va voir si vous êtes bon. Alors, celle-là, c'est quoi ? Équation de Schrödinger, c'est le chat Schrödinger. Je sais pas ce qu'ils font autour, là. Ah oui, il est mort et vivant. Ah ouais, celle-là, je crois qu'ils ont refait du Descartes. Ah oui, mais avec réfraction et réflexion. Et alors celle-là, c'est quoi ça? Je suis en train de redeviner en même temps. Principe d'action-réaction, conservation de l'énergie. Et celle-là, c'est ma préférée. Alors celle-là, si vous la trouvez, il n'y a rien de plus. Hein. Celle-là, moi, j'ai séché, quoi. Parce que nous, on avait la team prof à côté et on essayait, et celle-là, vraiment, on n'a pas trouvé. Il y en a qui l'ont ? Ah là là, vous n'êtes pas fort. Hein. Donc, ces défis olympiques, c'est un système qu'on a mis en place. Et puis, on a travaillé aussi sur l'essaimage. C'est-à-dire que vous pourrez, je vous donnerai le lien, mais vous pourrez aller récupérer sur Internet tous les templates. Dans un Google Slide, je ne sais pas quoi, où on remplace juste l'intitulé de l'épreuve, mais tout le graphisme et autres, et toute la charte graphique, on l'a fait développer avec une designer, et maintenant il est réutilisable par n'importe qui, mais ça fait classe, en gros, pour le dire vite. À la fin, on peut donner des médailles et tout et tout. L'intérêt, à mon avis, de ce modèle-là, c'est que là, vraiment, pour le coup, à mon avis, il s'adapte à toutes les disciplines et à tous les contextes à peu près. Alors, on peut faire des trucs vraiment sadiques. Je vous donne un exemple que j'adore, je ne voulais pas montrer celui-là, mais on leur demande, au bout d'un jour, ils sont un peu, ils commencent à comprendre, ils maîtrisent, ils sont à fond, et on leur dit challenge, en une minute, vous dessinez le dessin que vous voulez sans jamais lever le stylo. Donc ils prennent leur meilleur dessinateur, ils sont tous là. Après, on lance une minute, ils font un dessin hyper sophistiqué. Il y en a qui écrivent des mots et tout, et tout, et tout. Évidemment, c'est pas ça l'épreuve. Puis là, on leur donne une deuxième enveloppe avec la deuxième épreuve. Et la deuxième épreuve, c'est qu'ils doivent, avec une application, vous savez, qui enregistre votre mouvement, refaire avec le GPS le dessin. Et donc, on les envoie dehors dans la fac. Et ils doivent reproduire le dessin le mieux possible avec le mouvement de leur corps en faisant un trajet, vous savez, comme les gens qui font du vélo ou du jogging. Et ça donne des résultats vraiment drôles. Donc ça, c'est des défis olympiques, mais pas sportifs, qu'on a commencé cette année, et c'est une solution qui marche assez bien, et où on peut faire plein de physique sans en avoir l'air. Peut-être mon dernier symptôme de la journée que je vais traiter, c'est le plus compliqué, à mon avis. C'est le côté, la physique ne sert à rien pour la crise environnementale, et l'écologie en général. Alors là, la réponse de tous les physiciennes et les physiciens qui se respectent, c'est « mais si, bien sûr, la thermo, c'est que nous, tous les bilans d'énergie, tous les trucs, c'est nous. » Et ils ont bien raison. Mais donc le symptôme de ça, je ne sais pas si vous l'avez ici, mais nous c'est un peu ça Orsay, c'est qu'on a rajouté plein de cours pour sensibiliser les gens aux questions du climat, qui sont en gros des cours de thermo, puis un peu parfois de physique des matériaux, de physique des solides et autres, mais qui sont que des cours de mauvaises nouvelles. C'est-à-dire que c'est tout le cours pour vous raconter à quel point c'est la cata, quoi. C'est du Jean Covici plus, vous voyez. Et il y a ce truc un peu anxiogène quand même et un peu terrible qui est de dire aux physiciens, vous, vous allez mieux savoir que les autres à quel point c'est la cata. Et voilà. Alors, quand même, je sais que j'ai des collègues qui essayent de changer ça, par exemple, en commençant justement à faire des TP aux étudiantes, aux étudiants. Par exemple, j'ai une collègue, Claire, qui, à la sortie de ce cours-là, leur dit, bon, bah, maintenant, on va vous donner une caméra infrarouge et vous allez vous-même mesurer un peu les capacités de ce bâtiment et les compétences du bâtiment et qu'est-ce qu'il faudrait améliorer et comment, etc. Donc, les rendre acteurs. Je crois qu'il y a vraiment deux enjeux face à ces problèmes climatiques quand on enseigne les sciences. C'est un, montrer que ça peut être utile, et deux, essayer de ne pas être que dans la déprime. C'est-à-dire montrer que ça peut être utile peut-être de façon positive. Il y a plein de façons, à mon avis, de faire ça et de l'imaginer, mais ce n'est pas simple. Et je pense que c'est un enjeu crucial, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour le futur recrutement des scientifiques. Et je pense qu'on a besoin de scientifiques, pas seulement parce que j'aime la physique, mais pour aborder ces enjeux-là plus tard aussi. Sans tomber dans un technosolutionnisme à la noix du genre « vous inquiétez pas, la physique et les ordinateurs quantiques vont tout résoudre », qui est clairement faux. D'accord ? Donc il faut être dans cet entre-deux. Donc nous, on voulait absolument s'attaquer à ça et on ne savait vraiment pas comment s'y prendre, on savait juste qu'on ne voulait pas faire de thermo. Et donc on s'est dit « mais qu'est-ce qu'on va faire ?» Et le flash, en fait, il est venu d'un workshop qu'on a fait avec plein de collègues. On a fait venir plein de collègues de l'étranger juste après le Covid pour essayer de réfléchir à d'autres façons d'enseigner la physique. Et la première semaine, on a fait plein d'ateliers ensemble, très rigolos et tout. Et la deuxième semaine, on s'est dit, bon, on fait ce que vous avez envie, on n'a aucun programme, on se lâche, qui a envie de faire quoi? Et il y en a un, c'était un Belge, je me souviens, c'était Hervé, qui a dit, écoutez, il y a une forêt juste à côté, on en a marre là d'être coincé, on va tous dans la forêt. On me suis dit, oh là là, le truc de babos et tout, on va tous se retrouver. Il dit, allez, venez, on va dans la forêt. Donc on va tous dans la forêt, donc imaginez les 30 physiciens arrivant, on se pose dans la forêt, et il nous dit, on va commencer par un temps de méditation. Voilà. Je lui dis, oh non, pitié Hervé. Donc on est tous partis dans la forêt, on n'avait pas le droit de parler, on restait, on devait pendant 10 minutes observer la forêt autour de nous sans rien dire. Et après on est revenu, puis on a dit ce qu'on avait vu, machin et tout et tout. Donc évidemment tous les physiciens sont repartis au quart de tour, alors moi j'ai vu telle vibration, tel machin, tel truc. Et donc là a émergé l'idée, mais qu'est-ce que ça serait un enseignement dans la forêt? Ça voudrait dire quoi et qu'est-ce que ça permettrait de faire? Et donc on a commencé à réfléchir à ça et nous-mêmes après on l'a fait, 3 mois après. Donc je vais vous montrer notre premier enseignement dans la forêt. Donc l'idée c'est de sortir dehors, hein. Et donc on a publié ça dans American Journal of Physics. Donc un enseignement en forêt, le premier truc c'est que vous allez dans la forêt, et là tout de suite c'est la galère, c'est-à-dire que vous aviez prévu votre PowerPoint pour introduire l'enseignement, il faut l'imprimer à l'arrache, et puis vous mettez autour de la table, vous espérez trouver des tables, vous mettez les gens assis par terre, très vite vous sentez que vous n'allez pas pouvoir être dans du académique. Hein. Et donc après on a envoyé les étudiants observer, et après on les a envoyés en leur disant essayez de trouver une idée d'expérience dans la forêt, un truc à mesurer, et pareil on leur donne des petites contraintes pour justement les libérer. La contrainte ça pourrait être par exemple tout vert, ou encore très haut, ou encore tout petit. Voilà. Ils reviennent avec des idées, on fait le tri tous ensemble, bonne idée, pas bonne idée, ça crée une sorte de bourse à idées, et après chaque binôme d'étudiants prend une idée, et il a la journée pour le faire. Alors ça pose des problèmes matériels que je n'avais pas soupçonnés, vous les paumez instantanément vos étudiants. Si vous n'avez pas pris les téléphones portables avant, vous êtes foutus. Ils partent dans tous les sens dans la forêt, donc vous courez après pour essayer de voir ce qu'ils font, et ils vont mesurer. Alors là par exemple, qu'est-ce qu'elle faisait elle? Alors là c'est moi au milieu qui me demande ce qu'elles font je pense. Ah oui. Elle voulait mesurer à quel point la forêt absorbe le son. Est-ce qu'une forêt, par exemple, ça protège bien d'une autoroute? Mais avec les moyens du bord, pareil, on est dans de la physique frugale, elles avaient leur smartphone. Donc il y avait un smartphone qui crachait du son, un autre qui mesurait du son, puis elles se mettaient à différentes distances, puis elles mettaient des arbres entre elles, ou des bosquets, ou différentes situations. Après, elles se sont mises dans le parking pour avoir un point de référence. Et à la fin, ils ont essayé de calibrer un peu ce que faisait une forêt en décibels sur du son. Il y en a d'autres qui ont étudié, alors eux, ils ont étudié le débit de la rivière, mais vu qu'ils sont particulièrement audacieux ou stupides, à vous de choisir, ils ont compris très vite qu'un débit, ça ne suffit pas de voir la vitesse à la surface de l'eau, ça vous pouvez lâcher un petit machin et voir à quelle vitesse ça, il faut connaître la profondeur. Et donc ils ont été dans l'ivette, ce qui était vraiment une erreur, hein, au lieu juste de planter des bâtons depuis le pont en fait. Mais pareil, on les avait paumés, donc on les appelle, on dit où vous êtes, ils nous disent ah bah là on a un petit problème et tout. Donc ils étaient dans la rivière. Donc voilà, ça peut être inattendu, s'il pleut ça peut être très inattendu, il faut un plan B. Donc moi j'avais prévu un enseignement dans le RER, s'il pleuvait. C'est-à-dire le long d'un RER, qu'est-ce qu'on peut faire comme expérience? Et il y a plein de trucs marrants à imaginer. Puis après, ben, ils mesurent, ils tracent. Et pareil, on était resté dans une approche un peu frugale. Donc on leur a dit, on ne va pas commencer à aller sur les ordinateurs, tout analyser et tout. Vous prenez un tableau Velleda, oh, ils détestent ça. Et vous tracez quoi? Oh, mais comment on peut tracer une courbe avec un feutre quoi? Donc nous, c'était un grand plaisir pour nous. Eux, par exemple, ils ont étudié, est-ce qu'un gland peut vous tuer? Donc chute d'un gland, d'un chêne, on a des chênes dans notre forêt d'Orsay. Est-ce que ça peut vous tuer? Alors la réponse, c'est non. Et donc la deuxième question c'est, mais combien de glands peuvent vous tuer? Et après ils ont inventé tout un système d'unités à base de glands justement, comment on mesure une accélération à base de glands et tout et tout. Et développé tout un truc très intéressant, hein, c'est-à-dire est-ce qu'il y a du frottement, à partir de combien de mètres il y a vraiment du frottement, etc. etc. Enfin c'est pas si simple à mesurer que ça. Eux je crois qu'ils ont mesuré les trucs sur les surfaces de feuilles, quand on met des gouttes d'eau, qu'est-ce qui se passait, etc. etc. Et puis le deuxième jour, on leur a dit, OK, maintenant vous avez compris plein de choses sur la forêt, vous allez les raconter au reste du monde. Vous allez dire ce que vous, physiciens, vous avez vu de la forêt. Donc là, c'est un truc qu'on adore faire avec les designers. Ils ont une demi-journée pour fabriquer une expo de A à Z. Avec le poster, les affiches, le truc. Donc ils hurlent dès le début en disant, c'est impossible. Et on leur dit, on va essayer, on va y arriver. Et évidemment, en divisant les tâches et tout, on y arrive très bien. Et donc là, à la fin de la journée, on fait venir tous les autres gens qui traînent dans les couloirs et ils font leur expo où ils racontent ce qu'ils ont fait. Donc elle, par exemple, elle raconte justement les manips de son. Donc elle vous donnait un casque audio, vous écoutiez et puis elle vous faisait l'atténuation correspondante à différentes situations dans la forêt, entre le parking et les arbres. Qu'est-ce qu'ils faisaient eux? Ah bah eux, ils racontaient leurs mesures de débit justement dans la rivière. Donc ils vous tiraient un bateau en direct sur la bâche bleue pour que vous voyiez comment ils avaient mesuré le débit dans la forêt, etc., etc. Alors pareil, on les a interrogés à la fin de l'enseignement sur ce qu'ils avaient pensé, ce qu'ils avaient ressenti et autres. Et vraiment, le message numéro un général, ils ne parlaient pas d'écologie, ils ne parlaient pas de physique, c'était « Waouh, on peut sortir dehors !» C'était incroyable pour eux. C'était la première fois de leur vie qu'ils sortaient dehors pour faire quelque chose en enseignement, quoi, depuis peut-être l'école primaire ou un centre aéré. Et l'autre truc clé dont ils parlaient beaucoup, c'était « On peut faire de la physique dans la vraie vie. » Soudain, la physique, elle n'est pas restreinte aux TP hyperfréquences, vous voyez. Est-ce que c'est vraiment un TP sur l'environnement? Non, c'est vraiment des TP de physique, hein, soyons honnêtes. On se sert de la forêt comme prétexte. Mais pour nous, c'est important parce que ça leur montre qu'ils peuvent être acteurs. Ça leur montre qu'eux-mêmes, ils peuvent mesurer des choses dans la forêt. Il y en a qui sont intéressés à la densité versus la pente, versus le vent, etc., etc. Et progressivement, évidemment, on peut aller à des questions d'écologie. Et ce qu'il y a de très marrant, c'est que ces questions, elles sont sorties au moment de l'expo. L'expo, ils voulaient vraiment raconter une histoire et à la fin dire, ben voilà comment protéger votre forêt, voilà ce qu'on a découvert sur le son, sur la pente, sur etc., etc. Et là, soudain, on aborde des vrais enjeux d'environnement, mais sans qu'on ait été déprimé dans un côté, dans combien de temps on va mourir, quoi, en gros. Je finis avec un petit bilan. C'est pas facile de faire un bilan, parce que vous avez vu que c'est plein de petites expérimentations. Il n'y a pas quelque chose d'extrêmement systématique, bien calibré. C'est pas un programme de recherche avec à chaque fois un groupe témoin, un truc et tout, quoi. Donc, c'est du feeling, ce que je vais vous raconter là. C'est pas très basé scientifiquement, d'accord? On n'est pas loin du café du commerce, hein, je préfère vous prévenir. Donc ce qui pour nous fonctionne bien, c'est-à-dire ce qu'on voit vraiment comme point récurrent qui marche à chaque fois et qu'on retrouve toujours dans les débriefs d'étudiants, donc ce qu'on fait c'est qu'à la fin de chaque enseignement, on s'assied tous en rond, on branche un enregistreur puis on les écoute et on les laisse parler. Et puis après on fait des sondages anonymes, on leur demande de nous raconter ce qu'ils ont pensé mais de façon anonyme et puis on compile un peu ça. Donc c'est ça qui émerge. Ils aiment bien travailler par projet, ça c'est une évidence. Ils aiment bien travailler en groupe. Il y en a quand même beaucoup qui nous disent que c'est leur première fois depuis le début de leur vie qu'on les fait travailler en groupe, c'est-à-dire à plus de deux. Et soudain, travailler à 3, 4 ou 5, ben, ça change tout en termes de dynamique de groupe, de répartition du travail et autres. Et c'est compliqué. L'absence de notes. Je ne vous ai pas parlé d'évaluation jusqu'à présent, vous avez vu. Alors, il y a plein de trucs qu'on évalue, évidemment. Les TP par projet, on les évalue. On a des grilles, des machins. On a aussi des grilles de compétences. On a plein de méthodes. Mais je vais être honnête avec vous. Au moins la moitié des enseignements que je vous ai montrés, on ne donne pas de notes à la fin. Donc, alors, ça pose d'énormes problèmes. Premier problème avec les collègues qui nous disent « Attends, tant de CTS, tu me donnes une note. » Donc là, on dit 18. 18, on donne 18 à tout le monde. Alors ça les rend fous. Les collègues disent, mais attends, t'as pas rien. Et alors ceux que ça rend encore plus fous, c'est les étudiants. Moi, j'ai été subjugué. Je me souviens la première fois, pour la fiction, dans mes étudiants, et on leur dit, on va faire une fiction, on leur explique tout et tout, ils regardent. Et on vous prévient, il n'y a pas d'enjeu de notes, vous aurez tous 18. Hurlement chez les étudiants. Et notamment, c'était incroyable, chez des étudiants pas très bons qui disaient, mais c'est pas juste pour ceux qui ont des bonnes notes d'habitude. Vous voyez, le dégât du système français 20 ans après, quoi. Et donc, très souvent, on a eu des fortes réticences de la part des étudiants avant l'enseignement sur le fait qu'on ne mettait pas de notes, qu'on mettait la même note à tout le monde. Un truc un peu arbitraire, un peu voilà. Et on a reposé la même question après. Alors, c'est le seul sondage où j'ai à chaque fois eu 100% des réponses qui me donnent la même réponse. 100% des étudiants, après coup, disent « on était content qu'il n'y ait pas eu de notes ». Et au débrief, c'est un truc qui revient à chaque fois. Ils disent « oh, c'est la première fois de notre vie qu'on a eu un enseignement sans notes qui le sanctionnait ». Et donc, soudain, on a pu se lâcher. Soudain, on n'avait plus peur d'avoir peur. Soudain, on pouvait prendre des risques. Soudain, on a... la phrase, écoutez cette phrase, parce que pour ceux qui sont enseignantes ou enseignants dans la salle, écoutez bien cette phrase, il y en a qui nous disaient « Soudain, on n'avait plus peur de poser des questions à l'enseignant. » C'est affreux comme phrase, vous vous rendez compte? Je leur disais « Mais comment ça ?» Ils me disaient « Bah oui, habituellement quand on est en TP, si on pose une question à l'enseignant, ça veut dire qu'on ne sait pas et donc on va se faire saquer à la note. Donc on préfère pas poser des questions, demander plutôt aux copains d'à côté s'ils ont compris, mais c'est vraiment en dernier recours qu'on va les demander à l'enseignante ou à l'enseignant. » J'espère que ce n'est pas le cas dans tous les TP. Moi-même, j'ai enseigné beaucoup de TP dans ma vie. Mais c'est quand même terrorisant comme phrase. Donc ce côté pas donné de notes, il est hyper fort. Ça ne veut pas dire qu'on ne les évalue pas. Dans tous les systèmes, il y avait une évaluation intégrée. Mais on était un peu malin. Par exemple, l'Agence spatiale internationale, elle leur envoyait un rapport à un moment donné en leur disant « Il ne marche pas votre anémomètre, il est mal calibré, il déconne, il faut le refaire, il faut machin, il donnait des normes, des trucs, etc. » Mais ce n'était pas nous directement qui disions 15,5. La liberté et l'autonomie, ça, ça revient, ils adorent. Le côté bricolage, de fabriquer un truc avec leurs propres mains, ça les subjugue. Il y en a plein qui ne l'ont jamais fait et ils se rendent compte qu'ils savent fabriquer quelque chose. Ça, ça ressort toujours, même dans les cas les pires. Je veux dire, on leur a fait rencontrer des extraterrestres, on les a fait remonter le temps et tout. Et ils disent, enfin, on a fait de la vraie physique dans la vraie vie. Parce qu'il y a le côté, c'est dans le vrai monde, quoi. Et c'est pas abstrait, hors sol, comme peut l'être un TP. Sortir dehors, ils adorent sortir dehors. Et puis, de façon générale, ils disent qu'ils ont plaisir à faire ça. Alors, il faut toujours se méfier. À chaque fois que vous faites de l'innovation pédagogique, vous avez toujours des étudiants qui vous disent qu'ils ont plaisir. Une des raisons, et ça a été très analysé dans les didactiques, c'est que vous-même, vous êtes hyper engagé parce que c'est votre petit bébé, c'est votre nouveau truc. Donc, vous êtes à fond, donc vous êtes meilleur en enseignement. Et les étudiants, en plus, ils veulent être sympas avec vous. Donc, si vous demandez à un étudiant, est-ce que tu as aimé mon enseignement, quand vous faites un truc nouveau, vous êtes à peu près sûr que vous aurez des meilleures notes que si vous n'avez pas fait un truc nouveau. Ça marche à tous les coups et ça a été très bien documenté. Donc, il faut se méfier un petit peu de ça et on a essayé de le faire avec des groupes témoins et autres pour mieux le quantifier. Et le dernier truc très important dont on parle presque jamais dans le champ de la didactique, moi je le vois très peu mentionné, et qui est ressorti nous quand on a fait des sondages auprès de collègues, c'est le plaisir des enseignants. Des enseignants qui nous disaient « Oh, c'était le pied d'enseigner les projets, au début je pensais que ça allait être foireux, mais vraiment voir une manip sortir comme ça, j'ai jamais autant de plaisir, je veux le refaire, enfin c'est varié, enfin c'est différent, enfin je refais pas le même TP en boucle, etc. etc. » Donc tout ça, ça fonctionne bien. Alors ce qui fonctionne moins bien, alors plein de choses fonctionnent mal, et plein de problèmes très matériels. C'est-à-dire que dès que vous essayez de faire un truc comme ça, vont se poser des questions très pratiques. Les locaux. Nous, au début, on nous mettait dans des salles de TD. Donc, vous voyez la salle de TD avec des tables, les unes à côté des autres, qui remplissent toute la pièce. Essayez de faire un îlot pour chaque groupe. Vous n'avez pas la place parce qu'il y a trop de tables. Ou parfois, les tables, elles sont vissées au sol. Nous, on a encore ça hors, c'est dans certaines salles. Et puis, il y a des problèmes de lumière. Et puis, le problème du stockage. Ils fabriquent un projet, ils reviennent toutes les semaines. Qu'est-ce que vous faites des projets entre-temps? Si vous n'avez pas de voiture, vous êtes mort. Donc, plein de problèmes très matériels qu'on a appris à gérer petit à petit. Maintenant, on a des malles portables avec le matériel, on limite, on leur donne une caisse et ils la gardent jusqu'au bout. Mais surtout, la vraie solution, c'est négocier d'avoir des créneaux groupés. On occupe une salle, on met le bazar pendant 2 jours et après on repart et c'est fini. Dès que c'est chaque semaine, tout est plus compliqué. La question du matériel, c'est du matériel qui ne coûte pas un rond. Je veux dire, par rapport au moindre oscilloscope de TP, ce qu'on fait ne coûte rien, mais c'est compliqué à acheter. Il n'y a pas de carte bleue où on peut aller au Leroy Merlin du coin et acheter 3 bouts de papier alu, etc., etc. Donc nous, on fait des tas d'entourloupes pas possibles pour arriver finalement à acheter le matériel. Mais c'est très compliqué de se le faire rembourser après. Les emplois du temps, on vous dit, c'est génial ton enseignement, vas-y, fonce, je te donne 1h30 le jeudi après-midi, pendant un semestre. Parce que c'est ça les créneaux qu'on a d'habitude. Et là, vous êtes foutus. Il faut du temps. C'est grand minimum une demi-journée. Le cadre idéal, c'est 1 jour, 2 jours, 3 jours de suite. Là, c'est le rêve. Donc nous, maintenant, on essaie de négocier ça. Alors, il y a parfois des créneaux dans les maquettes à l'université ou dans le supérieur, genre une espèce de créneau en début d'année ou début janvier entre les partiels et la session suivante où il y a 2 jours où il faut faire quelque chose, ils ne savent pas quoi faire. Et là, on arrive, on dit donnez-le nous, on se débrouille. Mais c'est très compliqué sinon. Un autre truc qui marche très mal, qui est très compliqué, c'est d'évaluer les apprentissages. Pas d'évaluer les étudiants, hein, ça c'est facile de distinguer un bon projet d'un pas bon projet. Mais évaluer ce qu'eux ont appris, c'est très compliqué. Alors moi, je dirais que c'est très compliqué, y compris dans les TP classiques. Mais il y a vraiment un enjeu, et nous on essaie de construire des grilles, de regarder des grilles internationales qui existent, de les adapter et tout. Mais les grilles habituelles qui existent pour évaluer si un TP marche bien, elles sont dures à adapter là, parce qu'il y a plein de choses qui se jouent, qui ne se jouent pas dans un TP d'habitude. Et donc au feeling, on peut dire, ah j'ai l'impression qu'ils savent mieux bricoler, qu'ils ont mieux compris la chute des corps et autres. C'est très difficile de le quantifier. Et donc c'est très difficile aussi d'en parler aux collègues pour les convaincre qu'il s'est passé quelque chose. Et moi-même, je ne suis pas absolument sûr dans tous mes enseignements que ça a été forcément bien. Mais si on veut faire du quanti, c'est très compliqué. Un autre truc qui est très compliqué, c'est d'avoir l'air sérieux. C'est-à-dire que moi, quand même, j'ai la réputation du gros clown, quoi. Chaque fois que les collègues, souvent, me parlent de mes enseignements, ils me disent « Ah, oh, ils ont adoré les étudiants être avec toi, c'était super quand même, vous vous marrez bien, c'est vraiment rigolo, vraiment, vous êtes des charlots, quoi, en gros. » Et il y a un côté « Oh, c'est trop marrant, vos trucs, vraiment, va. » Mais il y a un côté kermesse, quoi. Je sens bien que pour eux, c'est l'activité, tiens, ils vont aller se marrer avec Julien, puis après, ils reviendront faire de la vraie physique. Et je ne pense pas fondamentalement que la plupart de mes collègues soient convaincus qu'on apprend vraiment en termes de pratique, en termes d'expérience, hein, on en fait des meilleurs physiciens. Et c'est compliqué aussi auprès des étudiants. C'est-à-dire que les étudiants, très souvent, ils arrivent vers nos trucs, ils subissent 2 jours, et vous imaginez même pas tout ce qu'ils apprennent. Il y en a, on voit, on les prend la première journée, ils ne savent pas tracer une courbe. À la fin, ils sont complètement autonomes, ils ne savent pas ce qu'est un capteur. À la fin, ils savent ce que... Donc on sait ce qu'ils ont appris là, très concrètement. On fait le débrief, et ces étudiants-là, précisément, disent « C'était vraiment sympa, on s'est éclaté, c'était hyper team building vos trucs. Bon, on n'a rien appris en physique, mais vraiment, on s'est éclaté. » Et il y en a plein qui, eux-mêmes, pensent que s'ils n'ont pas eu de notes, s'ils n'ont pas eu une interro, s'ils n'ont pas eu le petit A, petit B, petit C, ils n'ont rien appris. Et donc, c'est très compliqué de leur faire comprendre qu'un truc où on va quand même bien rigoler, et qui est quand même effectivement très disruptif de ce point de vue-là, même si j'aime pas ce mot-là, et bien que quand même c'est sérieux et qu'il y a de l'apprentissage derrière. Et en dehors de leur dire de façon très explicite, mais si tu as appris ça, c'est très compliqué. Donc nous, on essaie de leur expliciter les objectifs pédagogiques au début, de les redire à la fin, de leur dire ce qu'ils ont appris, mais malgré tout, eux-mêmes, à la fin, 2, 3 ans après, je pense qu'ils s'en souviennent comme le moment fun. Vous voyez? Et ça, c'est un vrai enjeu. Et tout ça, ça tourne autour de l'essaimage. C'est-à-dire que si ce truc-là, moi, je m'amuse avec et que je veux ensuite le répandre dans le monde entier, vont se poser les deux problèmes précédents. Si je veux convaincre mes collègues, si j'oublie même les deux premiers, il faut que je leur montre de l'évaluation, que je leur montre que vraiment ça sert à quelque chose et que je leur montre que ça a quand même l'air sérieux. Et là-dessus, pour l'instant, on est très mauvais. On a essayé, hein, on a essayé d'écrire des articles, d'aller dans des conférences, d'en parler, etc., etc. On n'est pas bon. Quand je dis qu'on n'est pas bon, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont repris ces enseignements. Il y en a quelques-uns, mais pas beaucoup de gens qui ont repris ces idées, ces enseignements ailleurs dans le monde, alors qu'on a développé des tas d'outils pour qu'ils le fassent de façon hyper facile. Mais donc pour l'instant, on fait un bide là-dessus et on est hyper malheureux. Je plombe l'ambiance. Donc si je résume, voilà le genre de clés, nous, qu'on a pu utiliser, quelques clés pour changer un peu la donne. Donc une idée, c'est de repenser les sujets. Au lieu d'arriver avec un sujet hyper fréquence, machin et tout, ben la forêt. Et donc ça va créer tout de suite une distorsion intéressante. Une autre idée, c'est repenser les outils. Ça, c'est une conférence Arduino dans un Fab Lab. Dès que vous utilisez un outil qui ne ressemble pas à un outil de TP de labo, les étudiants se disent que c'est différent. Le smartphone est un bon essai pour ça, Arduino aussi, mais il y en a plein d'autres. Repenser les lieux, ça c'est une école de design par exemple. On sent bien qu'on n'est pas dans une salle de TP de physique. Une autre clé importante, c'est repenser l'évaluation, comme je vous l'ai dit. On ne peut plus évaluer comme d'habitude, sinon ça va poser des problèmes. Et repenser le rôle des enseignants et des enseignantes. C'est-à-dire repenser ce rapport au savoir, qu'est-ce qu'on enseigne vraiment, qu'est-ce qu'on sait et qu'on ne sait pas, quand est-ce qu'on se place en évaluateur ou pas, mais vraiment, il faut penser à ces questions-là. Et puis le dernier truc, c'est penser à l'essaimage. Ça, c'est un exemple, c'est un site web qu'on a fait avec les designers. Si vous voulez fabriquer votre fiction, on vous demande combien de temps vous avez, une demi-journée, une journée, 2 journées. Vos élèves, est-ce que vous avez envie de leur faire faire de l'Arduino ou pas de l'Arduino? Est-ce que vous préférez l'espionnage nord-coréen ou l'espace? Vous cliquez, vous avez le scénario clé en main pour le faire. Et est-ce que après ça marche ou pas? Mais on essaye de développer des outils comme ça. Et le dernier conseil, si vous voulez changer la chose, qui est peut-être le conseil le plus important, ce que j'ai appris le plus pendant ces 10 ans, c'est que c'est super dur, c'est super épuisant d'essayer de le faire tout seul. On est seul contre le reste du monde, au bout d'un moment on s'épuise, on en a marre, on ne se sent pas reconnu et tout. Donc l'astuce, c'est de le faire à plusieurs. Ça, c'est le workshop dont je vous ai parlé, avec plein de potes partout dans le monde qui chacun sont seuls. Et à un moment donné, on a fait une séance de psychothérapie, c'était vraiment drôle. On a dit, donc c'était là, on n'était que les enseignants du monde entier. Là, on a Singapour, on a l'Italie, on a l'Amérique du Sud, là au premier rang, etc., etc. Et on a dit, chacun a dit, ben, dites ce qui ne va pas vous dans votre vie d'enseignant. Et vraiment, c'était terrible comme session. Et tout le monde, c'était, je suis seul, les autres ne comprennent pas ce que je fais. Dès que j'essaye d'innover, personne ne s'intéresse, personne, tout le monde s'en fout. Je fais le truc dans mon coin et je ne suis pas reconnu. Et enfin, je suis avec des gens aujourd'hui avec qui je suis reconnu. Et nous, avec Frédéric, qui est en bas à droite, on était les seuls à dire, ah ben non, nous, on fait tout à deux. Et déjà à deux, on se sent plus fort, quoi. On s'entraide, on est là, on se supporte. Donc faire le truc à plusieurs, ça change tout. Ça change tout. On peut râler sur les autres, mais on est ensemble à deux au café, vous voyez, ce genre-là. Et donc ça me permet de remercier tous les gens avec qui je collabore, puisqu'on arrive à la fin de l'exposé. Et donc, waouh, c'était mon deuxième effet spécial de la journée. Donc il y a Ulysse ici, pour ceux qui connaissent Ulysse, qui a fait plein de choses incroyables et qui a écrit un bouquin sur la smartphonique qui est vraiment chouette, de l'université de Bordeaux. Ici, mais caché derrière un bras, il y a Giovanni Organtini de la Sapienza à Rome, avec qui on fait plein de choses, qui lui aussi a écrit un bouquin génial sur Arduino et toutes les façons de faire de la physique avec Arduino. Là, il y a Fabienne et Jeanne de l'Institut Villebon, avec qui on collabore et avec qui on travaille beaucoup. Là, caché derrière, c'est un de la bande de Fifox et de l'université de Aachen. Devant là, c'est des didacticiens de l'université de l'UQAM à Montréal, avec qui on fait plein de choses. Et puis, mon pote Frédéric, avec qui on fait tout depuis le début. Je finis en vous donnant quelques liens, si vous voulez aller voir des trucs, piquer des trucs, piocher des trucs, les ressources. Et donc, je vous ai fait un seul lien sur lequel vous trouverez tout. Donc, tinyurl.com/pour-enseigner. J'ai même mis un QR code, là, j'ai fait moderne. Je ne sais pas s'il marche le QR code, mais je trouvais que ça faisait classe. Et là, en fait, j'ai mis tous les projets et tous les liens vers tous les projets. Et puis plus généralement, si vous allez sur notre site vulgarisation.fr, vous trouverez aussi tous les articles de recherche et tous les trucs du côté de la vulgarisation. Et puis après, on est un peu partout sur les réseaux sociaux. Alors moi-même, je suis sur les réseaux sociaux, mais plutôt pour raconter des petits trucs de physique. Mais si vous voulez vraiment trouver les trucs de l'équipe, par exemple, si vous allez, je sais pas, sur Instagram et vous cherchez la physique autrement, on a un compte d'équipe où on raconte tout ce qu'on fait, ou sur LinkedIn, par exemple, ou sur Facebook. Et voilà, je vous remercie pour votre attention.